Merci, Madame la Présidente, et bonjour à Gunaydin, à la délégation de la Turquie et à toute l'assistance. Je voudrais aujourd'hui aborder les questions liées au droit à un procès équitable, notamment au sujet du mouvement Gulen en 2016, et les points 19, les défenseurs des droits de l'homme, point 23, et enfin la liberté de réunion, point 26. Concernant le point 19, quelles sont les statistiques sur les personnes toujours en détention provisoire en lien avec ce mouvement? Quelles garanties empêchent l'utilisation de preuves obtenues sous la contrainte dans les procès liés au mouvement Gulen? Comment l'État parti s'assure-t-il que les individus ne sont pas poursuivis rétroactivement pour des actes commis avant la désignation du mouvement Gulen comme organisation terroriste? L'État parti peut-il fournir une mise à jour sur l'état des 125 678 cas de révocation dans la fonction publique depuis décembre 2021, y compris les critères ayant conduit à l'acceptation de 15 841 révisions de cas favorables? Quelles mesures ont été prises pour assurer leurs garanties judiciaires fondamentales? Et quelles mesures ont été prises pour garantir l'indépendance de la commission d'enquête sur les mesures de l'état d'urgence, dont on nous a dit qu'elle est administrative, et assurer un contrôle judiciaire effectif des décisions de cette commission? Quels autres recours judiciaires existent pour les fonctionnaires révoqués au-delà de la commission d'enquête? Et dans quelle mesure ces procédures respectent-elles le principe de proportionnalité de la sanction et le droit d'accès à un tribunal indépendant? Quelles mesures ont été prises pour répondre aux allégations de violation des droits de l'homme, y compris la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus accusés d'affiliation avec le mouvement Gulen? Et quels mécanismes garantissent une enquête approfondie sur ces allégations? D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que des personnes ont été condamnées à l'amende pour des accusations de torture. J'aimerais bien comprendre comment peut-on être condamné à l'amende si jamais il y a des accusations de torture. Quelles mesures ont été prises pour assurer que toutes les personnes qui ont été renvoyées ne soient pas victimes de discrimination et pour qu'elles ne subissent pas de restrictions dans l'exercice de leurs droits, tels que la liberté de circulation, le droit de quitter leur pays et dans l'accès à des services tels que les soins de santé ou au marché du travail? J'en viens maintenant au point 23, défenseur des droits de l'homme. L'État parti peut-il expliquer comment il garantit que les poursuites intentées contre les défenseurs des droits de l'homme, comme dans le cas d'Osman Kavala et d'autres dans les événements du parc Gezi, et aussi contre des journalistes, avocats et politiciens de l'opposition kurde, sont fondées sur des preuves tangibles de culpabilité d'une infraction pénale plutôt que sur leur engagement en faveur des droits de l'homme? La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les accusations contre M. Kavala manquaient de fondement. Comment l'État parti répond-il aux préoccupations selon lesquelles les poursuites contre lui ont pu être utilisées pour réprimer des activités légitimes de plaidoyer sous couvert d'infractions pénales? Existe-t-il un programme de protection des défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs de l'environnement et d'autres membres de la société civile, des militants kurdes et des journalistes et avocats qui exercent leur profession et sont perçus comme critiques à l'égard du gouvernement? Est-ce qu'il y a un programme contre les représailles et les harcèlements les concernant? Quelles mesures ont été prises pour assurer un environnement sûr et favorable à la société civile et pour éviter que le harcèlement et les persécutions entraînent la fermeture de bureaux et la réduction des activités de la société civile? Le dernier point concerne la liberté de réunion. Quelles mesures sont prises pour garantir que l'usage de la force lors des manifestations est strictement nécessaire, strictement professionnel et strictement encadré? Des exemples concrets existent-ils où les forces de sécurité ont réussi à désamorcer des manifestations pacifiques sans recourir à la force? Comment les décisions de restreindre certains espaces publics pour les rassemblements sont-elles prises ou est communiquées? Quelles mesures ont été mises en place pour protéger les groupes marginalisés tels que les maires du samedi ou les LGBTQI lors de leurs manifestations pacifiques pour leur permettre d'exercer leur droit de manifester, y compris au sein de la place Galatasaray à Istanbul. Dans quelle mesure la loi numéro 2911 relative aux réunions et manifestations qui régit les réunions publiques, les rassemblements ainsi que les manifestations est-elle compatible avec la liberté de réunion protégée par le pacte? Je vous remercie par avance de vos réponses. Merci.